Mini-série Les enfants HPI épisode 2, dédiée aux difficultés de communication et à leurs conséquences au quotidien. Pour en discuter, je suis toujours accompagnée par Franck Robert, créateur du cabinet de conseil, de formation et d'accompagnement inclusive à Toulouse. Je suis Sylvie Richard, je réalise l'interview, l'enregistrement et le montage et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast « Heureux et surdoués zèbres » ou « HPI », le podcast qui explore le haut potentiel pour vous aider à bien vivre le vôtre. Si vous aimez ce podcast et qu'il vous aide dans votre quotidien à mieux vous comprendre, je vous invite à laisser un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est très utile pour le référencement et ça permet à d'autres atypiques de découvrir le podcast et bien sûr, ça m'encourage à poursuivre ce travail. Pour commencer ce deuxième épisode, j'ai demandé à Franck quelles sont les difficultés de communication que les enfants HPI peuvent rencontrer et quelles sont leurs conséquences dans leur quotidien. Je vous souhaite une bonne écoute.
Alors, la difficulté de communication, ça me fait penser au fait qu'on traite toujours les HPI de asociaux ou qu'ils n'ont pas les codes. Alors, non, ils ne sont pas asociaux. Ils sont juste pas très fans des groupes sociaux qu'on leur propose. Mmh. On a parlé de la dysynchronie dans le premier épisode, le fait que le cerveau est en avance d'au moins 3 ans sur l'âge biologique. Ça veut dire que, socialement, cette dysynchronie, elle a un impact. L'enfant, il n'a pas autour de lui un groupe social de son âge ou des interlocuteurs qui lui permettent de développer ce que son cerveau produit. Donc du coup, il n'est pas asocial, il est juste pas en contact avec les bons groupes sociaux. Quand on a 12 ans, le bon groupe social, c'est des 15 ans. Et les 15 ans, en fait, ils sont pas du tout volontaires pour vous parler quand vous ressemblez à un 12 ans.
Oui,
parce qu'il y a des jeux, il y a des jeux entre ados. Et même, vous pouvez aller parler avec les adultes. Alors, avec vos parents, ça va. Mais les professeurs vous voient comme si vous avez 12 ans. Ils sont absolument pas habitués à ce que vous parliez comme si vous en avez 16. Vos parents, votre famille, souvent, veut bien discuter avec vous. Ils vous trouvent d'ailleurs très avancé, très brillant, etc. Mm-hmm. Mais ça va bien à un moment, quoi. T'as 12 ans, tu restes à ta place. C'est souvent un peu l'image qu'on se fait de la famille.
Ouais,
donc, du coup, quand on est enfant HPI, avec la dysynchronie, on n'est pas entouré par les bonnes personnes, même si on va aller chercher. Donc, on a tendance un peu à bloquer nos canaux de communication. Mm-hmm. C'est vrai qu'on s'aperçoit que, on va pas faire d'efforts parce que ça va bien. Ou alors, on fait des efforts, mais c'est pas payant. D'accord? On va se suradapter. On va créer quelque chose qu'on appelle le faux self. Le faux self, c'est un masque social qu'on a tous et qui permet au HPI de se donner l'impression de rentrer dans son groupe social ou de s'adapter. Mais en fait, ce faux self, il est extrêmement artificiel. Et il a un deuxième défaut, c'est que vous avez un faux self par groupe. Vous avez le faux self avec vos copains, vous avez le faux self avec vos profs, vous avez le faux self avec votre famille, etc., etc., etc. Donc du coup, vous avez une infinité de masques. Et du coup, vous avez des codes qui changent, donc vous n'avez pas les vrais codes. Donc ça, c'est la première difficulté, c'est que vous n'êtes pas entouré par des personnes qui vous engagent à communiquer. Sauf si on est avec des parents qui, eux, justement, ont bien réfléchi à cette histoire de dysynchronie et qui, eux, vont faire la jonction entre eux. Est-ce que vous leur parlez quand vous êtes enfant HPI, vous avez 15 ans, c'est votre cerveau de 15 ans qui parle, ou si c'est l'enfant de 12 ans qui parle, par exemple, toutes les peurs infantiles, par exemple, toutes les histoires d'émotions. Et on en vient à la deuxième clé. La deuxième chose à dire, c'est les histoires d'émotions. En fait, quand on est enfant HPI, souvenez-vous, intensité, vitesse et profondeur, et intensité notamment pour les émotions, c'est que on n'a pas des émotions qui sont différentes des émotions humaines de tout le monde. Par contre, elles sont extrêmement intenses. Et donc, on a vécu des émotions très intenses depuis l'enfance. Et avec les émotions, je vais vous amener à réfléchir à ça. Une émotion, c'est genré en France. D'accord. Et dans le monde occidental, c'est genré. Par exemple, est-ce qu'un enfant a le droit, un garçon a le droit de pleurer? Vous allez me dire, oui. Si vous regardez bien, en fait, à un moment, on a tendance à dire, arrête de pleurer. Je veux dire, t'es pas faible. D'accord. Pleurer, c'est être faible. Par contre, les filles, elles peuvent pleurer, mais elles ont pas le droit d'être en colère. Parce que la colère, c'est réservé à la force, c'est réservé au caractère. Une fille, ça doit être gentil et doux dans notre représentation. Donc, vous voyez que les émotions sont genrées. Donc, non seulement, quand vous êtes enfant HPI, vous n'avez pas le droit d'avoir l'éventail de vos émotions, comme tous les autres enfants, mais en plus, ils sont intenses. Alors là, aïe, 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 ça se voit deux fois plus. Et en plus, quand vous faites des colères, vous êtes un garçon et que vous faites une colère, bon, à la rigueur, vous êtes autorisé, mais elle est extrêmement intense. Donc on se demande si vous n'êtes pas complètement soupolé ou s'il n'y a pas un problème psychologique à l'arrière, que vous êtes traumatisé, etc. Donc vos émotions, elles ont tendance à paraître un peu anormales et bizarres. Donc là, quand vous êtes enfant, HPI, ben vous avez deux possibilités. Ou votre environnement vous valide. Vous avez des parents, vous avez un environnement, des tatas de crèche qui disent « ça va, t'as le droit d'être en colère, t'as le droit de pleurer, t'as le droit d'être triste, etc. C'est juste un moment, ça va passer ». Et puis, on va en parler après. Ça, ça s'appelle l'éducation aux émotions. Mm-hmm. Quand on éduque un enfant HPI aux émotions, et ben, du coup, on lui ouvre des canaux de communication. Par contre, quand il est dans un environnement qui est invalidant, qui va lui faire bien comprendre que son émotion, elle ne correspond pas à ce qu'on attend de lui, donc un garçon qui pleure, une fille qui se met en colère, on lui dit « mais qu'est-ce qui t'arrive ? Arrête, calme-toi, ou alors tu vas pas pleurer. »
On dirait t'en fais trop.
T'en fais trop, enfin, te comporte pas comme une femmelette, vous voyez, des mots comme ça. Hein. Mmh. Et donc, du coup, l'enfant, il va verrouiller ses émotions. Donc, il y a des émotions autorisées, des émotions pas autorisées. Donc, il va les enfermer. Et en enfermant les émotions, en fait, il rentre dans un processus de protection. La protection qui fait que je vais correspondre à ce qu'on attend de moi et je vais pas me faire rejeter à cause de ce que je ressens. Et donc, ce processus de protection, il porte un nom, ça s'appelle le retrait émotionnel. Ça veut dire qu'on enfouit les émotions à l'intérieur de soi. On les met en retrait, on prend du recul par rapport à la réalité du monde, et on va se détacher.
Ouais.
Et en se détachant, on produit trois effets, que je vais faire très rapidement parce que c'est un très vaste sujet qui pourrait vous intéresser, mais premièrement, on va perdre le vocabulaire pour exprimer ses émotions puisqu'on ne les exprime plus. Donc okay. On perd la clé de communication sur ses émotions. Alors que quand on est enfant, en fait, c'est la première raison de s'exprimer, c'est ce qu'on ressent.
Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas ce qu'on ressent. Parce qu'il y a deux choses différentes, en fait. Il y a les gens aussi qui n'arrivent pas, en fait, à mettre des mots ou à identifier quels sont leurs ressentis. On n'est pas forcément dans ce cas de figure-là. Donc, on peut savoir quelles émotions on ressent, mais avoir du mal à les exprimer ou avoir du mal à les mettre en mots.
En fait, le retrait émotionnel, il va s'installer tout progressivement. La première chose qui vous arrive, c'est que vous arrêtez d'en parler. Parce que c'est interdit d'en parler, très clairement. Donc, on perd le vocabulaire. On en revient à un vocabulaire de base. Je suis en colère, je suis énervé, je suis triste. Le vocabulaire autour des cinq premières émotions. D'accord? Okay. Donc, on perd tout le raffinement et la subtilité. Je suis agacé, je suis dans la joie. Tous ces vocabulaires qui sont de niveau 2 et 3 dans l'expression, on les perd. Et même, au fur et à mesure, on tasse. On a tendance même à pu dire, je suis énervé. On dit, je suis fatigué. D'accord? Quand on est agacé. Bon. Donc, on perd le vocabulaire. Comme on perd le vocabulaire, finalement, on n'arrive plus à se décrire à soi-même ses propres émotions.
Okay.
Donc on perd en fait cet émoussement, il y a un émoussement affectif qui s'installe, c'est qu'en fait, on n'est plus capable de décrire les émotions, donc finalement on les voit de moins en moins, ou on n'y réagit plus. Ça donne des gens qui ont l'air comme des serpents, quoi, avec le sang-froid, c'est des gens qui réagissent plus aux blagues, qui réagissent plus à la tristesse des autres, je veux dire, on vous annonce un deuil, et en fait non, vous êtes tellement en retrait que vous n'arrivez même pas à pleurer, ou à avoir de la tristesse, ou à le montrer sur votre visage. Donc du coup, vous avez l'air vraiment comme un psychopathe, d'accord ? Vous êtes très loin. Bon, ça, c'est le deuxième effet, l'émoussement affectif. Et le troisième effet, c'est l'effet final du retrait. Vous en perdez la capacité à produire des émotions par vous-même. Elles sont là, mais en fait, elles sortent même plus de l'intérieur de vous. Vous en avez même plus conscience. Donc en fait, vous êtes comme une espèce de zombie émotionnel. Et vous traversez la vie, les journées, en ayant des émotions, mais en n'étant plus... Voilà, il n'y a plus les ondes d'intensité de vos émotions. Vous êtes un peu une sorte d'encéphalogramme plat de l'émotion. Et donc, ça, c'est le retrait émotionnel. Et ça fait des gens qui sont avec un visage assez immobile, qui ne montrent pas de réaction. Voilà. Donc ça, c'est un effet de protection. Chez l'enfant, ça s'installe progressivement. On le voit souvent au début de l'adolescence, souvent au début de du collège. Le collège, c'est un environnement qui est très agressif pour l'enfant HPI, qui montre beaucoup de risques d'agression, de harcèlement. On en parlera plus tard. Mais le collège, c'est un environnement qui est un enjeu très fort à partir de la sixième. Et donc, il y a beaucoup de retraits émotionnels qui se concrétisent à ce moment-là chez l'enfant HPI, s'il n'est pas validé. Et donc, on voit des enfants qui sont dans le retrait émotionnel à partir de 12-13 ans. Et ça dure chez l'adulte. Hein, moi, j'accompagne parfois. Enfin, j'ai vu des adultes qui étaient dans un retrait émotionnel très, très, très grand et qui, du coup, n'arrivent plus à communiquer. Donc, on voit bien que l'enjeu du retrait émotionnel, ça touche la communication. Et quand vous avez un enfant qui n'exprime plus ses émotions, bah, la communication est un peu coupée quand même.
Ouais.
Avec les parents. Au moment où votre enfant ne va pas bien, vous lui dites bah, « qu'est-ce qui t'arrive ?» Il ne peut pas vous répondre d'abord, parce que ou il n'en a plus le vocabulaire, ou il ne le ressent plus, il a atteint l'anhédonie, c'est-à-dire la non-production d'émotions, bah, c'est fini, vous ne pouvez plus échanger. D'accord ? Et ça, ça arrive beaucoup dans les foyers, dans les noyaux familiaux de HPI. S'il y a un retrait émotionnel qui existe chez les parents et qui s'est installé chez l'enfant, bon, bah, là, vous avez de la communication qui s'est complètement rompue.
Oui. D'accord.
Donc, c'est pas un problème de code. C'est qu'on s'est protégé, en fait, sur ça. Et l'autre chose, et je continue sur la communication, c'est quand on veut ouvrir un canal de communication avec les autres.
Mm-hmm.
Alors, on va retourner un tout petit peu en arrière sur le fait que, dans votre cerveau, donc la myéline est en grande quantité, donc vous avez des pensées qui sont très rapides et très intenses. Et ça touche l'endroit qui s'appelle les amygdales. L'amygdale dans le cerveau, c'est la zone qui est chargée de traiter vos informations sensorielles et vos émotions. Et cette zone-là, en fait, elle est bombardée constamment de stimuli sensoriels, puisque vos cinq sens fonctionnent à plein et que l'information circule de façon très rapide et très intense. Donc du coup, ça doit vous parler normalement quand je vous dis que vous avez des sensations de façon permanente. Vous êtes en hypervigilance, vous voyez tout ce qui se passe, vous entendez beaucoup de bruit, vous avez un odorat très développé ou un goût très raffiné, etc. Donc les HPI ont souvent des sensations très intenses et très profondes. Donc il y a ces cinq sens, mais j'ai l'habitude de dire qu'en fait il y a un sixième sens qui se développe par la capacité d'analyse du cerveau. Et ce sixième sens, il vous donne deux types d'informations que sont les ambiances et les humeurs.
Mm-hmm.
Donc vous ressentez comment sont les gens. Vous les voyez et vos sens vous donnent des informations et votre cerveau analyse, tiens, cette personne aujourd'hui, elle est fatiguée. Ou tiens, cette personne aujourd'hui, elle est contente. Ou tiens, cette personne aujourd'hui, elle est en colère.
C'est ce qu'on appelle un peu des fois entre nous, avoir des antennes.
C'est ça, oui. Avoir les antennes. Donc on voit très bien comment sont les autres. C'est très utile, hein, ça crée notre empathie. D'accord ? Donc du coup, on sent très bien comment sont les autres. On est aussi envahi de ça.
Oui.
Donc on est, quand on dit que les gens sont hypersensibles, ils ont une ultra-sensibilité et ils sont tellement empathiques en fait qu'ils sont comme des éponges, ils intègrent les humeurs des autres. Donc on est aussi envahi par cette humeur-là. Et donc, c'est envahissant. D'accord ? C'est envahissant. Et l'autre chose, c'est les ambiances. Quand on est HPI, peut-être vous le savez, mais vous n'en avez pas pris conscience, vous rentrez dans une pièce, vous sentez immédiatement l'ambiance. D'accord ? Il y a un groupe de personnes, on va dire, vous rentrez dans une fête, les gens sont heureux, ou ils sont bien, ou même dans une salle de réunion, vous sentez les humeurs des gens, mais vous sentez si l'ambiance, elle est détendue, s'ils sont naturels, etc. Et en fait, il y a ce bain d'humeur et d'ambiance dans cette salle, qui en fait, vous le prenez comme une grosse vague quand vous rentrez dans cette pièce, vous plongez complètement dedans. Les enfants HPI, ils le ressentent, hein, d'accord ? C'est pas une histoire d'adulte, là. Ils rentrent dans la pièce, en fait, et ils en prennent. Ils en prennent, mais de tous les côtés, les yeux, les oreilles, les sensations, les humeurs, les ambiances, voilà. Ils sont complètement envahis par ça. Et il va falloir rentrer dans ce monde-là, d'accord ? Il va falloir interagir. Eh bien, on a souvent ce premier temps de recul qu'on appelle la pause réflexion. Je vais me poser, je vais me mettre un tout petit peu en retrait, je vais regarder pour analyser, je vais laisser mon cerveau un peu trier ce qui est en train de m'arriver, et puis je vais voir comment je vais pouvoir m'insérer parce qu'il faut. Et donc, je vais avoir besoin, en fait, de trouver le bon angle pour me mettre dans le groupe. J'ai absolument pas envie de me mettre dans le groupe parce que je sens que ça va être compliqué et j'ai l'habitude d'être un petit peu en décalage. Je sais que ça va pas de soi. On va pas m'accueillir à bras ouverts. Oui. J'ai des antécédents de rejet qui font que ça va pas être évident et je sais que c'est pas évident et je suis pas trop partant pour le faire. Mais je sais qu'il va falloir. Donc, du coup, je vais imaginer une stratégie pour essayer de rentrer dans le groupe. Ben, cette stratégie qu'on appelle le brise-glace, qu'on utilise hein, au niveau professionnel ou au niveau social, ou quand on va dans un bar, qu'on va pour rencontrer quelqu'un, on utilise une phrase d'accroche, d'accord, le brise-glace. Et ben, ce brise-glace, en fait, il va pas de soi pour les personnes HPI. On est obligé d'avoir appris ça. Et les ados, et ben, ils ont pas suffisamment d'expérience de brise-glace.
Mm-hmm.
Parce qu'ils ont tellement de rejets. Alors, il y en a qui y arrivent très bien, hein, ils ont trouvé des stratégies qui fonctionnent extrêmement bien, ou ils ont un charisme qui fonctionne. Mais la communication va pas de soi parce que souvent on n'a pas cette phrase de brise-glace. Et ben du coup on est de côté, voilà. Et ben comme on reste de côté, ben le groupe voit bien qu'on est de côté, qu'on s'isole. Ça facilite absolument pas les choses.
Ouais. Et du coup certains enfants peuvent rester bloqués dans cette position d'observateur où ils vont être en train d'analyser le groupe, les autres, et réfléchir à comment ils pourraient s'intégrer, ou en tout cas essayer de trouver des solutions pour que ce soit vivable. Mais ils restent dans cette posture où ils ne sont pas vraiment dedans.
Ils ne sont pas vraiment dedans. Et cette histoire a un impact important, j'y pense, là, sur les travaux de groupe à l'école. On veut toujours faire des travaux de groupe. Oui, c'est très intéressant au niveau pédagogique, mais ça a un impact. Quand vous êtes un enfant HPI, en fait, il y a plein d'obstacles qui vont se lever quand vous êtes un travaux de groupe. Un, déjà, il y a l'histoire du brise-glace. Bon, à la rigueur, c'est des copains de classe. Bon, on les connaît. On n'a pas forcément d'amitié avec eux, mais on va s'y mettre. Mais comme vous avez des idées qui sont très rapides, plus matures, voilà, toutes les caractéristiques du HPI, la petite boîte à outils très performante, de j'ai des idées très innovantes, je suis très créatif, j'ai une vision stratégique, une vision à 360 du problème, je vais voir les choses d'une façon qui m'est assez personnelle et que je vais avoir du mal à partager avec ceux qui n'ont pas ces capacités-là. Donc du coup, bah, ça me met un petit peu à l'écart. Et si j'ai pas la capacité de communiquer avec mon copain, dans le groupe, ou de dire, ben, moi, je pense ça parce que, et vous arrivez à les amener, d'argumenter, et les amener sur votre terrain de pensée, si vous n'y arrivez pas, bon, ben, c'est mort, on vous voit comme un peu un ovni, quoi. Mm-hmm. Vous êtes étranger, puis on va vous rejeter. Toutes vos idées vont passer à la trappe, non, pas du tout, voilà. Et donc, en fait, ça aussi, ça vous fait paraître comme étant difficile à la communication. Ça marche pour les adultes, hein, quand vous êtes en groupe, en équipe, en réunion d'équipe, vous faites du brainstorming. Attention, il y a alerte dans la demeure, parce que vous allez avoir des idées qui sont très vastes, votre arbre de pensée va être très foisonnant, vous allez monter à des étages de pensée qui vont être inaccessibles aux autres, et là, c'est à vous de faire le travail de redescendre. On n'est pas dans des difficultés de communication, mais on a des stratégies qui sont assez spécifiques quand on est HPI. Il faut prendre conscience du fait que, statistiquement, on n'appartient pas à 95% de la population. D'accord, le HPI, il est statistiquement à 2,3%. On peut aller jusqu'à 5% à l'aise. D'accord, on va dire que c'est 5% de la population. Ça veut dire qu'en face de vous, vous êtes 95% de la population qui ne fonctionne pas comme vous, okay, au niveau cérébral. Donc ça veut dire qu'en termes de communication, vous êtes une minorité, voire même une ultra-minorité. Et donc, il y a des choses à mettre en œuvre. D'accord, c'est comme si on parlait pas la même langue. C'est-à-dire, vous êtes face à vous avec des personnes qui sont, je sais pas moi, qui parlent russe. Par exemple, bon, bah, si vous apprenez pas le russe ou que vous avez pas des mots-clés de russe, etc., la communication va être très difficile. Donc, on est dans des difficultés, même si on est avec la même langue natale, on est dans des difficultés, non pas de code, mais de compréhension de l'un de l'autre. D'accord? Donc, on n'est pas asociaux, on n'a pas des gros problèmes de communication, mais il y a des spécificités dans notre profil HPI qui nous demandent, en fait, de penser la question en vrai.
Ouais.
De se dire vraiment, et ma communication, elle va comment, ma communication, comment je la mets en œuvre, quelles sont les stratégies, quelles sont les brise-glaces que je trouve. Moi, adulte, hein, il a fallu que je trouve des brise-glaces. Hein, et j'ai réussi à m'insérer véritablement en tant qu'adulte à l'âge de 45-46 ans, c'est tard, parce que j'ai pris conscience de ça et que je me suis créé en fait tout un panel de brise-glaces qui fonctionnent et qui me permettent de rentrer dans le groupe.
Oui, mais c'est aussi la preuve qu'une fois que tu as pris conscience de ton mode de fonctionnement, des difficultés que ça peut induire, tu peux aussi trouver les solutions qui sont associées.
Absolument, absolument. Rien n'est jamais désespéré pour un HPI. Au contraire, on est équipé avec des forces.
Ouais.
C'est des forces cognitives. Donc on est extrêmement équipé. On est dans un environnement qui ne nous facilite pas la tâche. Ils n'y peuvent rien, encore une fois. Hein. Les personnes qui sont autour de nous n'y peuvent rien. Ils sont comme ça, on est comme ça. Voilà. On a des différences. Et ces différences, en fait, font des forces chacun de notre côté, mais on a besoin, en fait, de trouver des stratégies. Mais c'est absolument pas désespéré. Si vous y pensez, si vous les créez, si vous êtes avec des personnes qui vous aident à ça, ben, ça va mieux. Mm-hmm. Tout de suite, ça va mieux. Je reviens sur cette histoire d'émotion, parce que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a un point très important dans l'accompagnement des enfants HPI, c'est les parents. C'est les parents qui détiennent la clé. On l'a dit tout à l'heure. C'est vraiment les parents qui détiennent la clé. D'accord? Les enfants HPI, c'est ceux sur lesquels on va travailler, mais c'est vraiment l'environnement familial, les parents qui aiment sans condition leurs enfants, c'est eux qui vont les aider. Et au niveau des émotions, vous avez bien compris qu'il y a un enjeu très fort sur l'éducation aux émotions. Donc il faut éduquer nos enfants à accepter leurs émotions. Si vous voulez commencer à favoriser la communication au sein de votre foyer familial, penser cette question de la communication. Et non pas sur « je vais forcer mon enfant à communiquer sur ses émotions ». Parce que si vous avez bien suivi, il a peut-être perdu le vocabulaire, puis surtout il n'a pas l'expérience, il est très très jeune.
Oui, et puis je pense que ce que tu disais avant aussi, l'intensité des émotions, ça fait aussi que du coup ça peut faire des courts-circuits dans le cerveau, on n'arrive plus en fait à trouver le vocabulaire, parce que c'est pas les mêmes zones du cerveau non plus qui sont sollicitées. Et puis la rapidité aussi des choses, et puis le fait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver en même temps dans nos idées. Donc tout ça, ça vient un peu brouiller les pistes de la communication, et on a du mal du coup à... On est pris par l'émotion, on est pris par tout ce qu'on ressent, et on a du mal du coup à l'exprimer de manière claire et spontanée.
Et quand on est enfant, HPI, et qu'on vit une émotion qui est extrêmement intense, imaginez une colère péplomique, une colère mais qui est monstrueuse, ouais. On jette les objets, on a envie de casser les choses, on casse ses jouets parfois, hein, ça arrive. Bon, après on s'en veut. Souvenez-vous, ça vous est peut-être arrivé, où vous voyez rouge, on dit les adultes, ils voient rouge, vous rentrez, mais vous perdez complètement pied avec la réalité, avec la raison, etc. Vous voyez rouge, les enfants voient rouge, d'accord ? Ils s'en veulent derrière. Ils savent, mais je devrais pas me comporter comme ça, je fais du mal, je me reconnais pas, etc. Donc ils s'en veulent en plus, donc ils ont absolument pas la possibilité de communiquer sur leurs émotions. Donc c'est vraiment les parents qui, eux, ont un peu de recul, ont de l'ancienneté, ont de l'expérience, qui peuvent ouvrir les canaux de communication autour des émotions. Mais attention, il y a une condition préalable. Prenez contact avec vos propres émotions pour commencer. Vous ne pouvez pas demander à votre enfant de vous parler de ses émotions si vous n'êtes pas capable de parler des vôtres. Et c'est là que l'éducation aux émotions fonctionne bien. C'est que vous êtes vous-même un être humain, puisque c'est héréditaire, vous êtes peut-être HPI, au moins un des deux parents est HPI. Donc vous êtes peut-être HPI, donc vous avez vécu des émotions de HPI, retournez le regard sur votre propre éducation aux émotions pour savoir comment moi je suis capable d'exprimer mes émotions. Est-ce que déjà je suis en contact avec mes émotions lucidement? Est-ce que je ne suis pas aussi moi-même en train de me leurrer ou dans un propre retrait, dans mon propre retrait d'adulte? Si je suis capable d'avoir le vocabulaire, très bien, mais dans ces cas-là, je vais faire usage de ce vocabulaire et je vais montrer à mon enfant qu'il est possible de communiquer sereinement à propos des émotions. Donc la première étape, c'est de rassurer votre enfant sur la communication des émotions, mais non pas en lui faisant miroiter que ça va aller, dis ce que tu veux, de toute façon je te jugerai pas, je t'aime, etc. Ça fonctionne pas bien du tout. C'est de dire, moi-même j'ai des émotions, et parfois je me mets très en colère contre toi, parce que ça me renvoie, je me sens pas bien, ou peut-être je suis pas un bon parent. Et vous commencez à creuser dans vos émotions de façon lucide, vous sortez un peu de votre costume de parent qui sait, de parent qui contrôle, de parent qui est rassurant, vous avez des incertitudes. Vous êtes un adulte, vous avez des doutes, vous avez des incertitudes. Ce qui va rassurer votre enfant, c'est que vous communiquiez sur vos incertitudes, et ça va complètement le mettre à niveau sur ses propres incertitudes.
Oui, mais c'est une relation de confiance aussi. En fait, on fait confiance à notre enfant d'être en capacité d'accueillir cette information, et de pas nous juger aussi par rapport à ça. Mais avant de revenir sur la clé, parce que j'aimerais que tu nous donnes une clé, il y avait une clé concrète que tu m'avais partagée la dernière fois, que j'aimerais qu'on redise dans cet enregistrement. La question que je me pose, c'est quoi les conséquences de ces difficultés de communication sur l'estime de soi ?
Vaste sujet, l'estime de soi. L'estime de soi, il n'y a pas une estime de soi. Alors, juste rapidement, on confond toujours confiance en soi et estime de soi. Mmh. Alors, pour faire vite, mais juste pour vous éclairer facilement, la confiance en soi, c'est qu'on se sent capable de faire les choses. Donc, je suis capable, par exemple, de sauter en élastique. Je peux physiquement sauter en élastique. D'accord ? Ou je suis capable de faire une conférence devant quelqu'un ou de tenir une réunion. Par contre, l'estime de soi, c'est est-ce que je m'en donne la valeur ? Est-ce que je suis suffisamment valable pour le faire ? D'accord ? Faire une conférence devant 200 personnes, je suis capable de le faire, mais est-ce que je m'en octroie la valeur ? Est-ce que je m'autorise en fait à le faire parce que j'ai suffisamment de valeur à mes yeux ? Donc l'estime de soi, c'est ça. D'accord ? Okay. Ça suffit pas, on a des enfants qui sont en très grande confiance de soi. Moi, j'avais une très grande confiance en moi, mais pas une estime de moi. Mais déjà, on regarde ça. C'est pas parce qu'il est capable de faire des choses que l'estime de soi est construite. La deuxième chose, c'est que l'estime de soi, en fait, c'est pas monobloc. On peut avoir l'estime de soi académique, on peut avoir l'estime de soi affective. voyez, il y a plusieurs paramètres de ça.
Oui, en fonction peut-être aussi de ce que tu disais tout à l'heure, de tous les faux selfs aussi, et tous les différents domaines, les différents groupes sociaux dans lesquels on va évoluer.
Je peux me sentir à l'aise parce que je suis très bon en foot, ou en équitation, ou en peinture, ou en musique, mais je ne suis pas très bon, par exemple, quand je suis en train de parler en groupe.
Okay.
D'accord ? Donc l'estime de soi, ce n'est pas monobloc. Donc on doit penser quand on est parent aussi que notre enfant n'a pas une estime de soi monobloc. Il n'a pas une mauvaise estime de soi. Il a des estimes de soi qui parfois sont mauvaises. D'accord ?
D'accord.
La communication, en fait, joue sur l'estime de soi parce que construire l'estime de soi, ça commence dès la naissance. Et on a parlé de cette histoire d'émotion et de décalage. Donc l'estime de soi, c'est se donner de la valeur. Vous avez compris, je suis valable pour le faire. Donc c'est une question de valeur.
Inconditionnellement.
Inconditionnellement. Donc je dois me donner de la valeur que je ne remets pas en cause toutes les 4 matins. D'accord ? Il y a un noyau. Il y a cette pépite à l'intérieur de moi, ce trésor, qui existe et que je regarde et que je reconnais, et qui fait, en fait, ma valeur à moi. Donc, c'est ça, l'estime de soi. Okay. Cette estime de soi, c'est presque facile de se la construire, d'accord ? On peut se la construire. Par contre, l'enjeu, comme on est encore dans une civilisation, c'est de se la faire valider par l'extérieur, comme pour les émotions. Donc, en fait, la communication touche l'estime de soi, parce que si jamais on ne communique pas sur sa valeur, jamais elle est validée, d'accord ? Mmh. Et donc on a toujours tendance à s'en prendre à nous-mêmes, d'accord ? Je ne fais pas bien les choses, je suis vraiment nul, hein, l'école nous aide beaucoup en fait à essayer de construire une valeur de soi négativement, je suis vraiment nul, j'y arrive pas, je révise, j'ai pas de copains, donc on s'en prend toujours à soi très facilement. Donc cette valeur en fait, même si on l'a créée au début, elle va prendre des chocs. Et donc si on n'est pas dans la communication avec des personnes qui nous valident, nos parents, nos amis, des enseignants, parce que les enseignants sont des figures d'autorité très importantes pour la construction de l'estime de soi, si on n'arrive pas à avoir une communication ouverte, authentique, sincère, transparente, bah du coup la valeur à l'intérieur, elle diminue, puis on la valide jamais. Voilà. Donc la communication, c'est...
Il y a un lien direct quand même.
Il y a un lien direct. De toute façon, au fur et à mesure de nos échanges là, il y a quelque chose qui va émerger, c'est que l'outil le plus efficace pour les HPI, c'est la communication. Il faut communiquer, il faut trouver les canaux de communication, il faut trouver le vocabulaire, il faut permettre à ce que la communication circule tout le temps. Et c'est le rôle du parent. C'est le rôle du parent que de se questionner sur sa capacité à communiquer. Attention, au nom de quoi vous parlez à votre enfant ? Est-ce que vous êtes le parent ? Est-ce que vous êtes l'adulte ? Est-ce que parfois vous parlez comme l'enfant que vous étiez ? Réfléchissez à d'où vous lui parlez, ça c'est très important, et soyez au clair sur ce que vous voulez dire. Est-ce que vous voulez vous rassurer vous-même, ou est-ce que vous voulez rassurer votre enfant ?
C'est quoi l'intention en fait ?
Quelle est votre intention ? D'accord ? Et très souvent en fait, on donne des conseils à l'enfant HPI, on fait le parallèle, on parle de nos expériences, mais on se rassure soi-même en fait.
Mmh.
D'accord ? La dernière chose sur ça, vous avez été HPI, vous avez été enfant déjà. D'accord ? Vous avez vécu tout ce que votre enfant vit, c'est des périodes de votre vie qui sont derrière vous, vous l'avez vécu avec vos propres difficultés, vos accidents de parcours, vos traumatismes de rejet, etc. Ça fait un terrain extraordinaire, en fait. Et on l'utilise souvent, hein, quand on est parent, en disant, ben moi, à ton âge, j'ai fait comme ça, etc. Mmh. Alors, à la fois, c'est rassurant, mais à la fois, c'est très invalidant. Hein. Pour un enfant, c'est très angoissant, parce qu'en fait, ben, moi, je suis pas aussi bien que mon père ou ma mère. D'accord ? Ils se comparent. Bon. En plus, quand vous avez été HPI, si vous savez que vous êtes HPI, vous avez été un enfant HPI, vous avez vécu des traumatismes, de rejets très forts, des intensités d'émotions, etc. Donc, vous pouvez communiquer sur ça aussi. Donc, vous pouvez aussi rajouter une dose d'intensité sur ce que vous êtes en train de dire à votre enfant. Donc, vous rajoutez aussi une dose d'intensité et de comparaison en face. L'idée, c'est de vous regarder vous-même dans votre communication en disant « Mais de quoi j'avais besoin quand moi j'étais enfant HPI ? Qu'est-ce que j'aurais voulu qu'on me dise ?» Non pas qu'on me dise en tant que parent, mais qu'on me dise en tant qu'être, être HPI.
Très bonne question.
Et si vous commencez à entrevoir ce que vous attendiez en tant qu'enfant, là, vous avez probablement tout bon sur ce que votre enfant attend. Donc, c'est une grande richesse que vous avez à l'intérieur, que vous n'exploitez que rarement quand vous êtes parent, c'est de dire, je suis un être HPI qui a vécu des choses, et mes besoins à moi, c'est peut-être les besoins de mon enfant. Et là, vous avez un vrai sujet de communication et qui fonctionne, parce que vous n'êtes plus dans la posture de parent, mais vous êtes dans la posture qu'on appelle adulte en analyse transactionnelle, c'est que vous êtes à égalité de dignité et
adulte
de sujet.
Adulte, ouais.
Adulte, D'accord ? Donc c'est une relation qui est horizontale, qui est très équilibrée et qui met pas l'un en dessous ou au-dessus de l'autre. Et là, avec les enfants HPI, ils ont besoin de relations horizontales dans la communication, authenticité, transparence, confiance, complicité. Voilà. Et la communication, elle tourne autour de ça. Donc c'est là, c'est la clé qu'on peut vous donner sur ça, en fait, autour de la communication.
Ouais.
C'est que vous avez vous-même les éléments pour communiquer de façon adulte et horizontale avec votre enfant.
Ok, et pour terminer, tu m'avais donné une astuce aussi quand on s'était vu la première fois. Tu m'avais donné par exemple l'idée d'utiliser un livre comme moyen de communication, parce que c'est pas toujours évident non plus de savoir quand amener le sujet ou c'est quand le bon moment en fait pour parler de telle ou telle chose et comment l'aborder sans que ça paraisse non plus quelque chose de grave, d'austère, de voilà, plomber du coup l'échange avant même qu'il ait vraiment lieu. Donc voilà, tu utilises cette possibilité de laisser un livre traîner sur la table du salon par exemple et de t'en servir comme de base pour échanger avec les enfants.
Exactement. On a un atout. Les enfants HPI sont des grandes éponges. Ils sont curieux de tout. Ils ont un besoin insatiable de connaissances. D'accord ? On s'en aperçoit pas forcément comme on voudrait parce qu'ils sont constamment devant les écrans. S'ils ont un portable, ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Ils se gavent d'images. Mmh. D'accord ? Et on a l'impression que c'est pas bon. Mais en fait, ne vous leurrez pas. Un enfant HPI qui se gave d'images, c'est parce qu'en fait, il nourrit son cerveau pas forcément de ce que vous voudriez. Alors évidemment, il lit pas la Pléiade, il lit pas les grands classiques que sont Hugo, Zola, etc. Ce que nous, on nous a demandé à faire, nous, la génération des 40-55 ans. Mais eux, ils se nourrissent véritablement. Et donc, l'idée, c'est pas d'aller sur leur terrain. L'idée, c'est de comprendre qu'ils ont besoin d'être nourris. Et vous pouvez justement, en fait, proposer de vous nourrir ensemble. Et le HPI, on a parlé du blog et du livre de Chloé Romain Gas dans l'épisode précédent. C'est un livre que j'ai, qui moi m'a permis de parler du HPI avec mes enfants, que j'ai laissé traîner, et que de temps en temps je regardais en disant « Tiens, là j'ai l'impression de te voir. D'ailleurs, j'ai l'impression de me voir aussi. » Et là, ça y est, on commence. Vous voyez, vous êtes à égalité, vous êtes en horizontalité. D'accord ? Et donc, utiliser un magazine, utiliser une conférence, utiliser un livre. Ce qui fonctionne extrêmement bien aussi, et je vous donne l'astuce, c'est on a des séries télé et on a des films qui parlent de HPI. Alors, il y a la série HPI, hein, mais c'est une série qui est archétypale. On rigole beaucoup. On a adoré cette série parce que c'est des archétypes à fond, puis elle joue très bien. Mais il y a des séries américaines, des séries coréennes, en fait, qui traitent le HPI sans en avoir l'air. Par exemple, la série Scorpion.
Oui, c'est à celle-ci que j'étais en train de penser, justement.
Voilà.
Ouais.
C'est une série qui, dans la saison 1, fonctionne extrêmement bien pour voir ce que c'est que le HPI en action. C'est un THPI, donc un très haut potentiel intellectuel à 160 de QI, ou 180 je crois, parce qu'ils sont sur une autre échelle américaine, et qui crée en fait une équipe d'experts. Mais ça va pas de soi, hein, d'accord ? Il y a toutes les histoires de communication, d'émotion, etc. Et ça montre extrêmement bien dans la saison 1 ce que c'est que de vivre entre HPI, ça va pas de soi. Mais quand même, ça aide beaucoup. Et donc, on voit le HPI. Vous en avez un autre, un film que moi j'aime beaucoup, c'est la série des films Divergentes. C'est l'histoire d'une jeune femme à l'intérieur d'une communauté qui est organisée autour de fonctions sociales. Et elle, en fait, elle correspond à aucune des fonctions sociales parce qu'elle les maîtrise toutes. Et si on regarde bien ce film-là, Divergente, on peut y voir une sorte de métaphore du HPI. C'est que le HPI, en fait, il correspond à aucune catégorisation professionnelle, sociale, puisqu'il a une boîte à outils qui va lui permettre de s'adapter à tout, de pouvoir répondre à tous les défis cognitifs, etc. Et donc, en fait, ils sont divergents par rapport à l'organisation sociale et socio-professionnelle de notre société. Donc, on peut, à travers les médias, il y a plein de films, hein, on en ferait la
liste. Ça servir comme de support.
Voilà, regardez les X-Men, par exemple. Qu'est-ce que c'est que des X-Men ? C'est des humains avec des capacités, des forces, d'accord, qui sont spécifiques. Bon. Donc, on peut utiliser ça pour dire, ben, moi, je me sens un peu comme tel X-Men. Je sais que moi, je me sens un peu comme Magneto. Parce que je m'identifie en lui. Donc, la communication, ça fonctionne aussi avec les enfants HPI quand on va les nourrir. en partageant en fait des choses qu'on va découvrir ensemble. Les films, les séries, les livres, les sites,
oui.
les conférences. Il y a même des youtubeurs en fait qui peuvent parler de ça. Donc voilà, on va sur le terrain commun de la connaissance et ça peut fonctionner vraiment très bien sans dire il faut qu'on parle ou il y a quelque chose qui va pas.
C'est ça. Voilà. Assieds-toi.
Assieds-toi. Il faut qu'on parle. J'ai un problème. Non, ouvrez-vous. Et dernière chose, je vous donne une dernière astuce, en fait. Les parents, on se projette beaucoup sur nos enfants. Beaucoup, beaucoup. Nos réussites, on voudrait qu'ils vivent nos réussites ou on voudrait qu'ils ne vivent pas nos échecs, qu'ils vivent les réussites qui nous étaient promises. On s'en rend pas compte, mais on a tendance à leur demander de réussir là où non, où on n'a pas réussi. Et donc, c'est de la projection. Et cette projection, en fait, elle bloque complètement les enfants puisque vous bloquez, en fait, leur devenir en leur demandant d'être une autre instance de vous-même.
Okay. Mm-hmm.
On n'y peut rien, ne vous en voulez pas sur ça, hein. C'est tout à fait naturel, c'est l'effet parental, c'est l'effet Pygmalion, en fait. Vous pouvez chercher l'histoire de Pygmalion, c'est l'effet Pygmalion, on voudrait que l'autre nous ressemble quand on l'éduque. Mais la première chose à faire, c'est posez-vous la question sur vous-même, en fait. Qu'est-ce que je n'ai pas réussi à faire et que j'aurais tendance à demander à mon enfant alors que je voudrais qu'il soit juste heureux et épanoui? Si vous répondez à cette question-là, votre communication va s'ouvrir beaucoup plus facilement.
Okay. Super, merci Franck pour ce deuxième épisode. On va le clore maintenant et puis on va garder un petit peu d'énergie pour la suite puisqu'on va parler du harcèlement ou du rejet, quand même un gros sujet d'actualité en plus. Avant de finir sur une note plus positive dans le quatrième épisode. Merci beaucoup.
Merci, à bientôt.
J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez me transmettre vos impressions et vos questions via LinkedIn ou l'adresse mail indiquée dans le descriptif du podcast. La semaine prochaine, nous parlerons d'un sujet assez lourd mais aussi tellement important et d'actualité qui est le harcèlement chez les enfants HPI. Pensez à vous abonner pour ne louper aucun épisode et enfin, si vous voulez en savoir un peu plus sur le travail de Franck, vous pouvez écouter son podcast intitulé « La voix rayée ». À bientôt !